Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 18h30 à Abidjan et en temps universel, 19h30 ici à Paris.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité sur le continent pendant 30 minutes. La première édition d'Afrique Soir de ce jeudi vous est présentée par Arthur Ponchelet. Bonsoir Arthur.
Bonsoir Romain et bonsoir à vous qui nous écoutez. À la une ce soir, ils étaient chargés de lutter contre le trafic de drogue. Ils écopent de 50 prisons pour trafic de drogue. En Côte d'Ivoire, des officiers du port autonome d'Abidjan ont été condamnés aujourd'hui pour avoir détourné une saisie record de cocaïne. John Dramani Mahama va se rendre à Niamey dimanche. Première étape d'une tournée diplomatique dans les pays de l'AES, objectif convaincre le Mali, le Burkina et le Niger de rester dans la CEDEAO. Notre dossier ce soir consacré à un retour, celui de Joseph Kabila en RDC. Après des années de silence, l'ancien chef de l'État se dit disponible pour servir son pays. Au sommaire également, on est au Nigeria où 24 heures après son enlèvement, le corps d'un prêtre a été retrouvé dans le nord-ouest du pays. En Zambie, où Human Rights Watch s'inquiète de la pollution au plomb après 3 décennies d'extraction minière. Et puis de la musique, comme tous les jeudis, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, nous fait découvrir sa sélection. L'affaire avait fait grand bruit en Côte d'Ivoire. Il y a 3 ans, les enquêteurs procédaient à plusieurs arrestations dans une affaire de drogue. Parmi elles, celle de l'ancien patron de la cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan. Lui et 2 officiers sont accusés d'avoir détourné une partie d'une saisie record de cocaïne. Après une longue enquête et un procès à 8 clos, le verdict est tombé aujourd'hui. Tous les 3 ont écopé de 50 prisons. Retour sur cette affaire avec Abdoulaziz Diallo.
Tout commence en juillet 2022 avec l'arrestation d'un petit dealer de drogue à Abidjan. Chez lui, les enquêteurs découvrent 37 grammes de cocaïne. Mais ce qui aurait pu être un simple fait divers prend une toute autre tournure. L'homme se présente comme un informateur de la cellule antidrogue du port et accuse plusieurs gendarmes de détourner des saisies. Mieux encore, il affirme que la drogue retrouvée chez lui provient d'une cargaison interceptée quelques semaines plus tôt. Ces révélations déclenchent une enquête qui remonte jusqu'au commandant Armand Agnès Ambonon, chef de cette unité spécialisée. Après plusieurs mois d'investigation et un procès à 8 clos, le verdict tombe. L'ex-commandant de la cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan et 2 autres officiers écopent de 5 ans de prison. Le tribunal correctionnel leur reproche d'avoir soustrait une partie d'une saisie colossale, 1,56 tonnes de cocaïne brute. Une marchandise estimée à 25 milliards de francs CFA. En 2022, plus de 2 tonnes de cocaïne avaient été saisies à Abidjan et San Pedro. Une 30aine de suspects avaient été interpellés, parmi eux, le chef de la police de San Pedro, condamné depuis à 10 ans de prison. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Abidjan où le président du Ghana était en visite hier, 3 mois après son élection, John Dramani Mahama a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ensemble, les 2 chefs d'État ont notamment évoqué le dossier brûlant du bras de fer entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Ils appellent le Mali, le Burkina et le Niger à rester dans la sous-région. Guillaume Thibault, Alassane Ouattara compte sur son homologue ghanéen pour relancer les discussions.
Nous vous faisons confiance, monsieur le président, a lancé Alassane Ouattara ce mercredi. Visiblement convaincu par la diplomatie mise en place par John Dramani Mahama depuis sa réélection. Le chef de l'État ghanéen, qui a pointé les limites des méthodes de la CEDEAO, notamment l'application des sanctions économiques, joue, depuis son retour au pouvoir, la carte des relations respectueuses et apaisées. En invitant notamment Assimi Goïta, Abdourahman Tiani et Ibrahim Traoré à son investiture le 7 janvier. Les 2 premiers se sont fait représenter, le voisin Burkinabé a lui été reçu en audience par John Dramani Mahama qui a déclaré « La colonisation nous a divisés, sinon nous ne serions qu'un seul peuple. Nous sommes au début d'une nouvelle relation, nous devons tout faire pour l'intégration. » Dans la foulée, le chef de l'État a nommé un envoyé spécial chargé des relations avec l'AES. Début février, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Samuel Akudzeto Ablakwa, a déclaré « Le président Mahama mène la charge pour garantir que le Mali, le Niger et le Burkina Faso reviennent dans le giron de la CEDEAO. Je ne doute pas que, compte tenu de son expérience diplomatique, il réussira. » Le ministre qui a aussi précisé que des visites diplomatiques de John Dramani Mahama sont prévues au sein des pays de l'AES dans les prochaines semaines.
Guillaume Thibault, et à Niamey, les militaires au pouvoir viennent justement d'annoncer que le président du Ghana, John Dramani Mahama, est attendu ce dimanche dans la capitale nigérienne. En bref, au Mali, le procès de Seydina Touré, prévu aujourd'hui, a été renvoyé à lundi prochain. Cet opposant, membre du parti Alternatif pour le Mali, est emprisonné depuis le 2 janvier. Il est poursuivi notamment pour atteinte au crédit de l'État, après des messages publiés sur les réseaux sociaux, dans lesquels il qualifiait les autorités militaires putschistes de l'AES de junte et appelait, je cite, à combattre le régime anarchique d'Assimi Goïta pour sauver l'honneur de l'islam, fin de citation. De sources judiciaires, son procès a été renvoyé au 10 mars prochain pour convocation de la direction générale du contentieux de l'État, absente ce matin à l'audience. L'un de nos correspondants au Tchad, Olivier Monodji, est toujours détenu ce soir à la direction de la police judiciaire. C'est dans le quartier de Moursa à N'Djamena. À cette heure, il n'a toujours pas été formellement entendu et aucun motif ne lui a été présenté pour justifier cette situation. Hier à la mi-journée, il a dû suivre des policiers venus dans les locaux du journal Le Pays, dont il est directeur de la publication, pour lui délivrer un mandat d'amener signé par le procureur de la République. Une situation qui inquiète son avocat, maître Alata Amos. Il estime que la procédure viole le code de procédure pénale et qu'Olivier Monodji doit être libéré.
Ce que nous demandons au parquet, précisément au procureur de la République, c'est mettre en liberté notre client parce que, en principe, il a été appréhendé par un mandat d'amener émis par le procureur de la République lui-même. Donc, jusqu'à 30 heures après, si on ne lui notifie aucune charge, ça devient de la détention illégale. Parce que d'abord, il n'a jamais été convoqué. Pourtant, le code de procédure pénale exige qu'on émette d'abord de convocation. Et si l'auteur convoqué ne répond pas à la convocation, il faut en émettre jusqu'à 3 avant qu'on vienne le prendre manu militari. Mais là, il n'a jamais été convoqué. Ils n'ont pas rapporté la preuve d'une convocation. On débarque dans son bureau, on le prend comme un vulgaire type et on ne lui notifie aucune charge. Nous avons fait les pieds de grue du parquet d'instance jusqu'au parquet général et il y a comme une sorte d'omerta autour de sa détention. Et là, nous trouvons que c'est une détention illégale qui n'obéit à aucune procédure. Et ce que nous réclamons immédiatement, c'est sa mise en liberté.
L'avocat d'Olivier Monodji, l'un de nos correspondants au Tchad, joint par François Mazet. Le Soudan accuse les Émirats Arabes Unis de complicité de génocide et dépose une requête devant la Cour internationale de justice. Khartoum pointe du doigt le soutien émirien aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Faux, rétorque Abu Dhabi, qui a immédiatement dénoncer un coup de communication. À l'écoute de RFI, 18h38 en temps universel. Notre dossier ce soir nous emmène en République démocratique du Congo, avec ce retour de Joseph Kabila sur la scène politique. Après des années de silence, l'ancien chef de l'État a publié il y a 10 jours une tribune dans un journal sud-africain, Tribune, dans laquelle il lançait une charge contre le pouvoir actuel de Félix Tshisekedi. Avant-hier, dans la presse namibienne cette fois, le chef du PPRD s'est dit disponible pour servir son pays. Trésor Kibongula, analyste politique à Ebouteli, était l'invité d'Afrique Midi sur RFI aujourd'hui. Et pour lui, ce retour ne doit rien au hasard. Il s'inscrit en pleine guerre à l'est du pays.
Cela faisait 6 ans qu'il a gardé silence. Il choisit de parler au moment où la RDC traverse une crise majeure. Il y a une guerre à l'Est, les climats politiques très fragiles à Kinshasa, il y a une contestation qui monte contre les pouvoirs en place. Je pense qu'il veut clairement peser sur les débats en cours et peut-être aussi sur les discussions des différents processus régionaux des médiations. Mais ce qui frappe, à mon sens, c'est qu'il s'adresse d'abord à l'extérieur. Il a parlé récemment depuis la Namibie et il a commencé par une tribune dans un média sud-africain. Donc c'est un public qui n'est pas congolais, qui me semble être le premier destinataire de ces messages.
Il veut redevenir président de la République, selon vous?
En tout cas, c'est une offensive politique, même s'il reste très prudent. Il ne dit pas explicitement ce qu'il veut, s'il veut vraiment revenir au premier plan, mais je pense qu'il sème quand même des marqueurs avec cette réorganisation de son parti. Il a nommé un vice-président qui va venir gérer un peu les affaires à Kinshasa, donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako. Il a multiplié les attaques contre la gouvernance actuelle. Il a posé un ton très alarmiste sur l'actuelle crise. Pourtant, je pense aussi que ses retours laissent une impression un peu contrastée. Il critique ce qu'il appelle la dictature du président ou du régime actuel, mais certains attendaient aussi qu'il exprime un certain regret quand même sur la manière dont la transition de 2019 s'est déroulée, car une partie de l'opinion estime que c'est là aussi que le parti républicain de Sun City a commencé à être mis à mal.
Alors le président de la République, Félix Tshisekedi, accuse justement son prédécesseur Joseph Kabila d'être derrière le M23. Jean-Pierre Bemba, l'ancien ministre de la Défense, lui dit que Joseph Kabila est responsable des troubles dans le Maïndombé. Est-ce que c'est vrai, selon vous? Est-ce que Joseph Kabila est derrière ces opérations qui sèment le trouble en RDC?
C'est très difficile d'avoir un avis très tranché là-dessus. Récemment encore, un opposant à Kinshasa m'a laissé entendre que par rapport à ce qui s'est passé à l'Est et le fait que les opposants, beaucoup se retrouvent aujourd'hui en exil des faits, c'est le cas de Moïse Katumbi, de Joseph Kabila qui peuvent plus revenir, ces gens-là peuvent peut-être se retrouver dans une sorte de sympathie avec les autres compagnons d'infortune. Mais ce qui est sûr, c'est que les débats autour de ces liens supposés avec les M23 est aujourd'hui inévitable. Mais il faut tout de suite dire aussi qu'en 2013, c'est sous le régime de Joseph Kabila que l'M23 avait été défait. Donc, ce que ça signifie tout ça, c'est que la guerre à l'Est va devenir très vite et devient déjà un enjeu majeur de la bataille politique qui va se jouer à Kinshasa entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et ses opposants, qui sont pour la plupart aujourd'hui à l'extérieur du pays. D'un côté, le président de la République veut faire du M23 et du soutien rwandais une question d'unité nationale. Il a annoncé en tout cas des consultations pour créer un gouvernement d'union nationale. Et de l'autre côté, ses adversaires retournent cet argument contre lui en dénonçant aussi ses propres responsabilités dans les retours ou la résurgence de ces groupes armés.
Trésor Kibangula, analyste politique à Ebouteli. Il était l'invité de Nicolas Sûr aujourd'hui dans Afrique Midi. Entretien à réécouter en intégralité sur notre site RFI.fr. L'actualité en RDC, c'est aussi ce chiffre. 375 000, c'est le nombre d'enfants privés d'éducation au Nord Kivu. Chiffre fourni par Save the Children. L'ONG qui s'inquiète, la fermeture des écoles expose les enfants à des risques de recrutement par des groupes armés. Selon l'organisation, depuis le début de l'année, beaucoup d'écoles ont été transformées en abris pour les familles déplacées par les violences. Et puis en bref, trois nouveaux cas du virus Ebola recensés en Ouganda annoncent aujourd'hui d'Africa CDC. Depuis le début de l'année, 12 personnes ont été infectées dans le pays, avec un total de 69 cas contacts qui font l'objet d'un suivi. C'est un phénomène récurrent et aucune région du pays n'est épargnée. Au Nigeria, les enlèvements de membres du clergé inquiètent. Lisa Fabian, hier, le corps sans vie d'un prêtre catholique a été retrouvé dans le nord-ouest du pays.
Le père Sylvestre Okechukwu a été kidnappé dans la soirée de mardi alors qu'il se trouvait dans sa résidence de Tashera dans l'état de Kaduna. Puis le diocèse de Kafanchan dans le nord-ouest du Nigeria a fait part de son décès dans un communiqué évoquant le vide terrible laissé par sa disparition. Depuis début février, au moins 5 religieux chrétiens ont été kidnappés au Nigeria. Un phénomène qui s'étend à l'ensemble du territoire national, que ce soit dans les régions à majorité musulmane du nord du pays ou au sud, où les chrétiens sont majoritaires. Ces derniers jours, 4 personnes ont été arrêtées par la police dans l'état d'Edo après le kidnapping d'un prêtre et d'un séminariste. Cet incident a créé des tensions entre le gouvernement à la tête de cet état fédéré et l'opposition locale qui dénonce une dégradation de la sécurité. Les enlèvements de prêtres ou de séminaristes ne sont pas une nouveauté au Nigeria, mais la persistance de ce phénomène rappelle que la situation sécuritaire reste difficile dans tout le pays.
Lisa Fabian, les États-Unis. États-Unis poursuivent leur désengagement sur la scène internationale, mais aussi sur le continent. Dernière décision en date, Washington quitte le partenariat pour une transition énergétique juste avec l'Afrique du Sud. Cet accord international vise à financer la sortie du charbon pour Pretoria, l'Afrique du Sud. Tire plus des trois quarts de son électricité du charbon. En Zambie, ce n'est pas l'extraction de charbon, mais celle de plomb qui est pointée du doigt. Dans un rapport, Human Rights Watch dénonce la pollution engendrée par ces mines dans la ville de Kabwe, c'est dans le centre du pays. Juliette Pietraszewski, ce rapport, vous l'avez consulté pour RFI et ses conclusions sont alarmantes, notamment pour les enfants.
À Kabwe, 95% des enfants vivant dans les zones les plus polluées de la ville présenteraient un niveau de plomb très élevé dans le sang. En cause, des millions de tonnes de déchets de plomb, toujours pas recouverts, 30 ans après la fermeture de la mine. Des extractions sauvages aussi. Selon Human Rights Watch, des mineurs artisanaux ont été autorisés à travailler sur plusieurs concessions à l'abandon. Entre 2022 et 2024, plusieurs entreprises ont mené ou facilité des activités parmi les déchets contaminés dans la zone de l'ancienne mine, précise l'ONG. Des entreprises qui ont aussi placé les déchets dans des tas à ciel ouvert dans divers quartiers. Les autorités doivent réagir, alerte Juliane Kippenberg, directrice adjointe des droits de l'enfant à Human Rights Watch.
Nous appelons d'assurer que la loi de mine de l'environnement soit vraiment appliquée. Il faudrait suspendre des opérations qui sont dangereuses. Il faut vraiment un programme de nettoyage complet des déchets. Le nettoyage en tant que tel de la région de la mine, mais aussi les maisons.
L'ONG appelle aussi la Zambie à mettre en place un programme de santé pour assurer l'accès aux traitements médicaux aux enfants comme aux adultes.
Juliette Pietraszewski du football avant de refermer ce journal. Après la polémique, José Mourinho répond. L'entraîneur du Fenerbahçe a été accusé de racisme la semaine dernière après un match contre Galatasaray, rencontre à l'issue de laquelle il a dit que le banc du club turc avait, je cite, « sauté comme des singes » après une décision des arbitres. Aujourd'hui, José Mourinho a répondu dans une interview à la chaîne anglaise Sky Sport et il a taclé les attaques des dirigeants de Galatasaray à son encontre.
Ils n'ont pas été intelligents dans la manière de s'attaquer à moi, car ils ne connaissent pas ma connexion avec l'Afrique, avec les Africains, avec les joueurs africains et les œuvres caritatives en Afrique. Ils n'ont aucune idée de mon passé. Et je pense qu'au lieu de m'atteindre, cela a eu un effet boomerang contre eux. Je dois remercier les gens qui n'ont eu aucun problème à parler en ma faveur, spécialement mes gars, mes anciens joueurs africains qui ont une voix importante. Mais indépendamment de cela, la chose la plus importante est que je sais qui je suis. Et bien sûr, m'accuser de racisme était un mauvais choix.
José Mourinho qui a néanmoins écopé de deux matchs de suspension de la part de la Fédération turque de football pour ses propos jugés contraires à l'éthique sportive. Il est 18h47 en temps universel. On en a parlé toute la semaine dernière sur RFI, le Tour cycliste du Rwanda avait un objectif, préparer les prochains championnats du monde sur route. Ils sont prévus fin septembre à Kigali, une grande première pour l'Afrique. Mais face aux meilleurs de la planète, quel rôle peuvent espérer les coureurs et coursières du continent? Disons-le franchement, Thomas de Saint-Léger, les chances de briller sont très minces.
Le classement final du 17e Tour du Rwanda laisse apparaître de belles promesses. Trois coureurs africains dans le top 10, un jeune Rwandais, vainqueur Massengé Cho, 7e. C'est bien, mais attention, mirage. Aux Mondiaux, avec des Pogacar ou Vingegaard annoncés, la concurrence sera bien plus relevée. Et que dire du parcours?
Ça peut être un mini Paris-Roubaix à l'africaine, quoi.
David Louvet est bien placé pour comparer. Il est depuis 2023 l'entraîneur de l'équipe du Rwanda. Paris-Roubaix donc pour les pavés, la distance de 170 km. À cela s'ajoute l'altitude et de nombreuses ascensions. Un cocktail qui fait de ces mondiaux les plus durs, peut-être, de l'histoire.
Avoir un Africain d'arrivée, c'est sûr, ça va être compliqué chez les élites. Au niveau du classement, moi je pense qu'on peut reprendre celui de l'année dernière et on aura les mêmes coureurs à l'arrivée.
C'est-à-dire Tadej Pogacar loin devant et pas grand monde à l'arrivée. À Zurich, où s'est disputée la dernière édition, le parcours, très vallonné, avait eu raison des sprinteurs. Même Biniam Girmay, maillot vert du dernier Tour de France, avait jeté l'éponge en cours de route. Alors, que fera l'Érythréen cette année? Peut-il, lui, le grand coureur que l'Afrique attendait, zapper les premiers mondiaux sur le continent? tout est possible, disait-il à notre micro fin janvier. Aujourd'hui, l'hypothèse impasse semble la plus avancée. Samson Solomon, sélectionneur de l'Érythrée.
On a discuté ensemble, la fédération, le ministère des sports et Biniam. J'aimerais qu'il soit là. Le gouvernement, le peuple, tout le monde aimerait. Pareil, mais c'est son choix. Cette course n'est pas adaptée à son profil. Il n'a pas très envie de prendre le départ pour le principe sans pouvoir la terminer. On ne peut pas décider pour lui, l'obliger à venir. Donc je pense que Biniam ne participera pas à ces championnats au Rwanda.
Mais il n'y a pas que Girmay et les stars de la catégorie élite, heureusement. 13 épreuves sont prévues sur la semaine de compétition. Les parcours ne sont pas tous aussi durs et certaines courses seront plus ouvertes. L'Ivoirien Ala Kwame, nouveau président de la Confédération africaine de cyclisme.
Au niveau élite, ça va être difficile. Mais là, au niveau des jeunes, surtout au niveau des dames en plus, il y a encore des possibilités. Donc le message que moi je vais lancer à votre micro, c'est de faire en sorte que les fédérations africaines fassent en sorte qu'il y ait beaucoup de dames qui viennent à ces mondiaux-là. C'est nos mondiaux, c'est pas une affaire du Rwanda, c'est une affaire de toute l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit présente.
Le président de la CAC dit espérer au moins 40 fédérations africaines représentées en septembre pour des chances de médailles minimes. Reste le plus important peut-être l'élan, l'héritage que ces mondiaux doivent laisser. Un programme de formation supervisé par l'Union cycliste internationale vient déjà d'être inauguré au Rwanda. Il doit pouvoir bénéficier à tous les coureurs du continent. Thomas de Saint-Léger, Kigali, RFI.
Reportage de Thomas de Saint-Léger à réécouter sur l'application RFI Pure Radio.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
L'Afroclub, c'est avec l'ambianceur officiel d'Afrique Soir, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir.
Bonsoir Arthur, bonsoir à tous.
Dans un instant, on découvrira la séquence rétro comme tous les jeudis. Mais d'abord, votre sélection des dernières sorties afro-urbaines s'ouvre avec la chanteuse ougandaise Vinka.
Oui, la sensation ougandaise Vinka est de retour avec Sirubala, nouveau titre dancehall très énergique et représentatif de sa signature sonore. La chanson raconte l'histoire d'une femme profondément amoureuse, rêvant d'un homme dont elle ne peut se passer. Et cette sortie redonne du peps à la carrière de Vinka, qui a décidé de reprendre le contrôle d'une partie de son catalogue détenu aujourd'hui par son label Swans Avenue.
Got a pretty boyfriend that I got alone. Big bucks, big money. Oh no one got funny, I'm a big money. Big bucks, big money. Oh no one got funny, I'm a big money. On a red, sweet mula vestido bada.
Vinka dans Afrique Soir. On enchaîne à présent avec deux divas de la musique afro, José de la Côte d'Ivoire et Fanny J de la Guyane.
Oui, le duo entre José et Fanny J n'est pas un faux départ, bien au contraire, la chanson Faux Pas réalise un excellent démarrage en occupant le top 20 des tendances depuis sa sortie et le public est conquis par cette collaboration au sommet. Fanny J est une figure emblématique du zouk qu'on ne présente plus et son retour sur le devant de la scène est toujours très attendu. Le single Faux Pas explore les méandres des relations amoureuses marquées par la déception et la trahison. José revendique ce titre comme une ode à la libération de la parole des femmes. C'est un peu le 8 mars avant l'heure.
Compte de fées, mais depuis que l'on s'est marié, José il a changé. Je sais pas ce que je lui ai fait. Le mien a décroché. La moitié du temps cette année, il dit qu'il travaillait, mais je n'y crois pas, tu sais. Il est souvent jaloux, on fait même plus l'amour. Il change d'humeur, j'ai peur qu'il gère une autre go dehors. Baby, baby, faut pas jouer avec mon cœur, faut pas blaguer. Baby, ce soir, je veux la vérité, faut pas blaguer. Baby.
Après José et Fanny J, place à la traditionnelle séquence rétro du jeudi. Et vous avez choisi Seven Days du britannique Craig David. Et
oui, c'est le carton qui a révélé Craig David à l'international. Je vous la fais courte. L'histoire de Seven Days commence un lundi où Craig David rencontre une femme dans la rue. Le mardi, ils sortent boire un verre. Ensuite, le mercredi, leur relation passe à l'étape suivante. Je vous fais un dessin. Et puis du jeudi au samedi, ils passent du temps ensemble de manière plus décontractée. Le dimanche, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
on my way to see my friends. She lived a couple blocks away from me. As I walked through the subway, must have been about 3:15. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said a cost of a name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind?
I don't think so.
Was it for real?
Damn sure.
What was the deal?
A pretty girl is 24.
So is she cute?
She couldn't wait.
Cinnamon queen,
let me update.
What did she say?
She said she loved to.
Moi j'étais à peine né, mais il faut dire que c'est toujours très efficace, Craig David, même 25 ans après.
Eh, vous vous rendez compte, hein?
Et oui, et c'est déjà le moment, Hervé, de conclure cet Afro-Club avec un oiseau pas si rare que ça, le rappeur gabonais L'Oiseau Rare.
Oui, et pour le coup, il n'est pas venu tout seul, puisque L'Oiseau Rare, roi de l'Afro-Cham, qui est un sous-genre d'Afro-Pop né au Gabon, a convié Anoda Boy du Togo et du Nigeria sur le morceau Ya. On retrouve ce titre dans l'album Afro-Cham 1, sorti en décembre dernier. Le titre se démarque par sa composition et on retrouve la signature vocale de L'Oiseau Rare, devenu une figure de la scène urbaine panafricaine.
Il a suffi d'un freestyle et me voilà inscrit dans tous les paramètres. Étape par étape, pas de tricherie car ça ne baille pas. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Un sage m'avait appris que c'est le raccourci qui a tué le rat. Si tu as des plaquants, tu veux, tu peux m'inviter. Vous tous qui avez conspiré, il faut m'inviter. Un peu de recul prend l'élan, tu sautes un genre de schizométamorphose en quelque sorte. Baby, oh, tu abuses, oh, à cause de toi, oh, j'ai vidé ma carte de crédit, oh. Cyrilo, El No Davido, on me dit aussi c'était l'anga de Nilo. Le juge, mon avocat, tous les deux sont hors d'état de nuire. Oh.
Et c'est avec L'Oiseau Rare que se referment les portes de l'Afro-Club de ce jeudi 6 mars. Merci DJ Facemaker. On peut vous réécouter en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Oui, également disponible sur notre site internet rfi.fr dans l'onglet thématique. Vous sélectionnez musique. Je serai de retour à ce micro mardi prochain. Et comme on est sympa sur RFI, on vous a mis une vidéo qui récapitule la sélection de l'Afro-Club de la semaine sur les réseaux sociaux de RFI Musique. Et je vous recommande de rester bien à l'écoute de la radio du monde si vous êtes là, car la suite des programmes vous est annoncée par le légendaire Arthur Ponchelet.
18h56 en temps universel. La suite ce soir sur RFI, dans une quinzaine de minutes, Accent d'Europe, consacré aujourd'hui au Conseil européen extraordinaire. C'était tout à l'heure à Bruxelles. Il a été question de réarmement militaire et d'autonomie vis-à-vis des États-Unis. Mais est-ce que cela peut s'accompagner d'une coordination stratégique des 27 ?
Il faut bien voir que les Européens sont obligés d'avancer prudemment parce que dans les traités sur l'Union européenne tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, la défense du territoire européen reste une défense des territoires nationaux opérée par les États membres. Donc cette coordination, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, mais moi il me semble que avec le lâchage de l'Europe par Trump, il y a une direction qui est en train d'être donnée.
Le chercheur à Sciences Po, Sylvain Kahn, entretien à écouter à partir de 19h10, temps universel dans Accent d'Europe. Juste après, à 19h40, grand reportage nous emmène ce soir au Brésil. On parle des paris en ligne, ils ont explosé dans le pays. Chaque année, les Brésiliens dépensent, tenez-vous bien, 3 milliards d'euros. Et parfois, les jeux en ligne deviennent une véritable drogue.
Il faut savoir gérer les frustrations de la vie et se contrôler. Parce que oui, on peut être stressé, angoissé, ça peut faire mal et donner envie de rejouer pour récupérer l'argent qu'on a perdu. Ceux qui gagnent beaucoup perdent aussi un peu la raison. Une amie avait gagné 50 000, puis elle a perdu 80 000. Elle n'a pas su se raisonner, elle n'a pas su gérer son équilibre.
Brésil, la fièvre des jeux en ligne. Grand reportage de Sarah Cozzolino à écouter d'ici une quarantaine de minutes. Et puis à 20h10, temps universel, couleur tropicale, Loram Bacob vous propose ce soir une émission spéciale engagement politique. Pêle-mêle, on entendra Fally Ipupa, Missier Sadik, Tiken Jaffa Coli, Kerry James, Kendrick Lamar ou encore Calypso Queen, rien que ça. Et en guise de mise en bouche, eh bien on vous propose We Are The World de USA for Africa.
It's too important.
We Are The World sur RFI. Rendez-vous donc à 20h10, temps universel, pour un couleur tropicale spécial chanson engagée. Et c'est ainsi que s'achève cette première édition d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir suivie. Elle a été préparée et réalisée avec Raphaël Lazizi, Sylvie Ansané et Simon Bulbaudin. Restez bien à l'écoute de RFI. Dans 30 secondes, un nouveau journal.
Priorité santé, Caroline Paré.
Demain, pour notre dernière émission au Sénégal en Casamance, nous nous rendons à l'hôpital régional de Ziguinchor pour comprendre avec les équipes les enjeux liés à l'accès à l'oxygène médical pour les insuffisances respiratoires, les nouveau-nés ou la réanimation. L'oxygène médical, un médicament essentiel selon l'OMS.
Priorité santé
avec Sono Assurance
du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.